Radio Béton vous invite à la 33e édition.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Béton, il est 16h. Vous êtes en direct sur 93.6 et vous écoutez l'émission d'Entraide et Solidarité. Entraide et Solidarité, c'est quoi? C'est une association, Tourangelle, qui existe depuis 70 ans, qui s'appelait Entraide ouvrière jusqu'à l'année dernière et qui a pour objet de venir en aide aux plus démunis sur le département. Alors, au fil du temps, la pauvreté a évolué, l'association s'adapte et aujourd'hui, les activités consistent à accueillir les personnes, héberger, soigner, former, insérer par l'activité économique, et d'ailleurs ça, c'est notre sujet aujourd'hui, et viser l'autonomie des personnes avec l'aide des travailleurs sociaux, bien sûr, qui travaillent auprès des encadrants. Une info au sujet de l'association, le pôle social et médical qui se trouve aujourd'hui place Gaston Payou déménage prochainement et vous retrouverez donc le cabinet médical, la Toba et l'accueil de l'association au 55 rue Marcel Tribu à partir du 25 mai. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, vous pouvez consulter le site internet http://entraide-et-solidarité.fr. Pour ma part, je me présente, donc je m'appelle Jackie Rojon, je suis adhérente de l'association et je co-anime cette émission avec Nathalie Dréano qui est auprès de moi, qui est responsable du centre de formation de l'association, et puis également il y a Thierry Guérard qui est notre commandant et qui nous pilote et qui est directeur du pôle social et médical. Donc, nous réalisons l'émission grâce à Radio Béton, qui nous accorde un espace de parole qu'on partage avec nos bénéficiaires, avec des salariés, avec nos partenaires, parce qu'on tâche d'élargir les débats. Et donc, le rendez-vous est chaque premier lundi du mois, de 16h à 17h. L'objectif de l'émission, lutter contre les exclusions, bien sûr. Parler des sujets dont on n'entend pas toujours parler quand on n'est pas dans le domaine social, avec des personnes qui, elles, travaillent au quotidien à l'amélioration des conditions de travail des personnes. Et on tâche, on espère pouvoir lutter ainsi contre les a priori, par exemple. Aujourd'hui, donc, on a pensé parler de l'insertion par l'activité économique, parce que c'est un facteur d'insertion majeur, parce que ça nous procure un salaire, évidemment, mais aussi sur le plan relationnel parce que ça nous permet de nouer des liens avec les autres et de lutter contre l'isolement de cette façon. Sur le plan social, parce que quand on travaille, on participe à la vie de la cité et que du coup on se sent plus utile et ça c'est quelque chose qui touche à l'estime de soi aussi. Voilà, donc pour parler de ce sujet-là, on a avec nous Céline Blin. Bonjour Céline,
Bonjour.
qui représente Touraine Insertion. Touraine Insertion, c'est un collectif récent. On en reparlera un petit peu mieux tout à l'heure et puis Céline nous présentera. On a avec nous Sylvain Badonnel qui est...
Bonjour aux auditeurs.
Sylvain est le directeur du service d'insertion par l'activité économique de l'Entraide. On a avec nous Philippe Gaudré.
Bonjour.
Qui est directeur du chantier d'insertion Orkis qui se trouve à Loche. On a avec nous Lolé Dounyama, pardon Lolé, bonjour. Lolé était salarié en insertion. Avec nous Pierre-Tony Ansabi, encadrant technique. Bonjour Pierre-Tony. Et puis Frédéric Fleury.
Bonjour à tous.
Donc Frédéric est administrateur de l'Entraide et aujourd'hui il est là en tant que bénévole parce qu'il a une action spécifique dans les chantiers d'insertion de l'association. Donc avant d'aller plus loin et de revenir sur notre sujet, on peut vous faire une petite page d'actualité générale du domaine social, Nathalie, si tu veux.
Oui, alors tout d'abord, la sortie du plan d'hiver. Au 31 mars, plus de 100 personnes étaient hébergées à l'hôtel sans solution de relogement. L'État a accepté de prolonger certains séjours à l'hôtel, mais sans plus de perspectives pour les familles qui, la plupart, sont déboutées du droit d'asile et se retrouvent sans papier. D'autres familles se trouvent d'ores et déjà sans solution d'hébergement. Autre sujet d'actualité, les mineurs non accompagnés, plus connus sous le nom de MNA, Face à un afflux sans précédent de mineurs isolés, le conseil départemental estime à 1000 le nombre d'arrivées pour 2018. Le département a fait appel à des familles volontaires pour accueillir ces jeunes, mais a également lancé deux appels à projets pour l'accueil de 100 jeunes, puis un second appel à projet pour l'accueil de 150 jeunes supplémentaires. L'entraide et solidarité s'est associée à AJH et aux apprentis d'Auteuil pour répondre au second appel à projet. La situation est très tendue et le conseil départemental rencontre des difficultés pour assurer l'accueil et l'hébergement de ces jeunes. Dans ce contexte de tension, depuis quelques semaines, un squat appelé le Bercail s'est développé dans les locaux appartenant au diocèse de Tours. 60 personnes soutenues par un collectif dénommé Résistance 37, Emena et sans-papiers occupent les lieux. La préfecture a fait quelques propositions de relogement temporaire refusées par le collectif. La revendication de ce collectif étant la régularisation et le relogement durable de tous les occupants du squat. Entraide et solidarité pour mener à bien ces différents projets, recherche des logements sur l'agglo. Si vous êtes propriétaire, n'hésitez pas à nous contacter. La location à Entraide et solidarité est un geste bien évidemment solidaire, mais peut en contrepartie donner droit à des réductions d'impôts. Merci de votre aide.
Ok, donc on reprend peut-être notre sujet qui est l'insertion par l'activité économique. Alors déjà, une première définition trouvée sur le site internet de la Directe. La Directe, c'est une administration qui est implantée en région. C'est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Donc je vous lis une première définition. Donc, les structures d'insertion par l'activité économique permettent à des personnes sans emploi confrontées à des difficultés sociales et professionnelles spécifiques, l'âge, l'état de santé, la précarité, de bénéficier d'un accompagnement renforcé qui doit faciliter durablement leur insertion dans l'emploi. Donc ça, c'est une définition. Voilà. On pourrait revenir un petit peu en arrière pour parler de l'historique ou retracer un petit peu l'historique de ce dispositif avec Sylvain.
On va essayer effectivement. Alors on peut remonter aux années 70 pour une structuration de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, qui à l'époque ne portait pas ce nom-là, mais auparavant il y a eu des aventures différentes, par exemple celle d'Emmaüs qui est la plus connue, où on avait effectivement proposé une activité avec un pécule qui n'était pas tout à fait une rémunération. Et antérieurement encore à Emmaüs, il y a eu sur le secteur Tourangeau, l'abbé Pinault, puisqu'il est le créateur d'Entraide et Solidarité, qui a été un des premiers, par solidarité, à proposer une activité avec une rémunération. Mais on parle de naissance de l'insertion par l'activité économique au milieu des années 70, au moment où les deux chocs pétroliers ont mis fin à ce qu'on a appelé la période de plein emploi. Et à ce moment-là, on a cherché des solutions pour trouver de l'activité à un certain nombre de personnes qui étaient les premiers demandeurs d'emploi. Alors, il y a eu deux grandes façons de procéder. Il y a d'abord des stages, qu'on appelait les stages bar, pour ceux qui se souviennent de Raymond Barre, qui a été Premier ministre. Et en parallèle, le monde du travail social a essayé de mettre en place des choses. Et la première tentative structurée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les AVA, l'adaptation à la vie active, qui se structure d'un point de vue législatif autour des années 60, à la fin des années 70. Ensuite, différentes structures vont exister. Alors il y en a beaucoup, mais les premières, c'est ce qu'on appelle les associations intermédiaires. On propose une force de travail. Ça, c'est le début des années 80. Au milieu des années 80, on crée des stages, on transforme en stage des activités qu'on appelle des TUC, travaux d'utilité collective, puis contrat CES. Et là, on voit apparaître deux formes de structures qui sont les entreprises d'insertion, puis les associations, les chantiers d'insertion, et qui se structure à la fin des années 80 et au début des années 90. Voilà. Alors tout ça évolue. Au départ, les salariés qui sont accueillis ne font pas partie de l'effectif. Alors ça peut être porté généralement par une association. Et c'est seulement en 2014 qu'on les intégrera et qu'ils feront partie de l'effectif, par exemple pour le calcul des seuils. Jusque-là, c'est encore des gens qui n'apparaissent pas, donc qui ne sont pas dans le calcul. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, 80 salariés dans une structure, et la structure officiellement n'a que 10 salariés, parce que c'est l'encadrement qu'on compte. Voilà. Donc on voit une structuration progressive. On voit dans les années 90 aussi les entreprises d'insertion de travail temporaire. qui sont la quatrième grande famille. Alors, il y en a d'autres qui sont un peu des dérivés, comme les GEC, par exemple, mais c'est... Bon, on ne va pas trop s'étendre dessus. Si on doit retenir une date, c'est 2008, parce qu'en 2008, il y a effectivement une volonté du législateur d'organiser tout ça, et entre autres, il crée ce qu'on appelle des conseils départementaux pour l'insertion par l'activité économique, qui vont réguler une activité qui était parfois auparavant un peu... pas laissé libre, mais en tout cas mal organisé. Et ces comités départementaux, c'est 2008, avec des lois qui vont succéder. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a quatre grandes familles de structures par l'insertion, par l'activité économique. Il y a les ateliers et chantiers, les entreprises d'insertion qui, elles, sont concurrentielles sur le marché, on y reviendra plus tard, les entreprises d'insertion, et puis les associations intermédiaires, celles qui mettent à disposition à domicile des personnes qui viennent pour donner leur force de travail, qui viennent faire du ménage, de l'espace vert, etc. Voilà, un bref historique de la structuration du monde de l'insertion par l'activité économique.
Céline, vous représentez l'association Touraine Insertion. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît ?
Bien sûr. Donc Touraine Insertion, c'est une association qui est toute jeune puisqu'elle a un peu plus d'un an d'existence. C'est donc un collectif qui regroupe les 35 structures d'insertion par l'activité économique du département. Donc comme le disait Sylvain, effectivement, il y a quatre familles. Donc sur le département, cela représente 3 entreprises de travail temporaire d'insertion, 13 associations intermédiaires, 7 entreprises d'insertion et 11 ateliers et chantiers d'insertion. Donc l'objet du collectif est bien sûr de regrouper donc ces structures d'insertion pour pouvoir mutualiser les formations, faire connaître l'insertion par l'activité économique, qui est assez méconnue finalement, même si ce sont des dispositifs qui sont assez anciens. Donc les faire connaître auprès des entreprises, des collectivités et de tous les partenaires de l'emploi. Et également de travailler ensemble, échanger sur les bonnes pratiques et mutualiser toutes les pratiques de ces structures pour pouvoir aller ensemble vers le développement durable.
Vous avez plusieurs commissions au sein d'insertion, Touraine Insertion,
oui,
je fais toujours l'inverse.
Tout à fait. Oui, il y a des groupes de travail qui se sont formés, en fait, sur des thématiques qui sont chères aux structures et qui sont transversales. Donc, il y a des commissions autour de la formation, autour des bonnes pratiques de la qualité et également au niveau de l'accompagnement socio-professionnel. Plus particulièrement, on travaille sur les outils qui sont utilisés dans l'accompagnement des salariés en insertion pour optimiser les parcours d'insertion des salariés et également travailler autour de la relation entreprise et des partenariats pour optimiser le parcours vers l'emploi durable.
Est-ce qu'on peut aujourd'hui mesurer des bénéfices pour les salariés en chantier d'insertion au bout de à peine 2 ans ?
Alors oui, c'est vrai qu'on est assez jeune, mais effectivement, il y a déjà des bénéfices puisque le fait d'avoir un interlocuteur unique pour toutes ces structures d'insertion par l'activité économique permet du coup d'être contacté en direct par les entreprises, par les collectivités, par les grands donneurs d'ordre, et également par les partenaires, et du coup d'optimiser les prescriptions et d'avoir une meilleure orientation pour les salariés en insertion, et donc une efficacité plus importante dans le travail au quotidien des structures d'insertion.
À la base, qui a été à la création de Touraine Insertion ?
Alors en fait, l'histoire, c'est qu'il y a eu en 2016 un forum de l'insertion qui a été initié par les financeurs que sont donc la Directe et le Conseil départemental. Et c'est à l'issue de ce forum qu'a émergé l'idée par les structures elles-mêmes de pouvoir se regrouper autour de problématiques communes pour pouvoir travailler ensemble autour d'un collectif.
D'accord. Aujourd'hui, c'est 35 structures d'insertion.
Alors, donc ces structures d'insertion sont agréées par l'État. En fait, il y en a 34 des structures d'insertion, puisque l'entraide des solidarités a 2 sites sur Chinon et sur Tours. Donc, ça fait 34 structures d'insertion. Et le collectif regroupe 33 de ces 34 structures.
On fait une pause musicale, je crois. On fait signe. Donc, on va écouter Alain Bachong, Ma petite entreprise.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanoui et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait.
plus, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles ma petite entreprise, que ne pas la crise s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre, je perds le nord, garde-forme, quand je vois se poindre les pyramides, nez à nez, mes lubies. Là, j'y coule à mes oreilles, ma petite entreprise, connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe, des trésors satinés, dorés à souhait. Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube.
Donc Céline de Touraine Insertion, on va continuer notre émission sur l'activité économique. Combien de salariés sont aujourd'hui concernés sur les structures d'insertion ?
Alors, cela représente plus de 2500 salariés qui sont accompagnés chaque année par les structures d'insertion du département.
Et au niveau des encadrants techniques ?
Donc, il y a un encadrement technique et social renforcé par plus de 300 permanents sur les 4 familles qui existent dans les structures d'insertion sur le département.
Les salariés en chantier d'insertion sont là pour faire un parcours, un passage. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le chiffre de retour à l'emploi de ces salariés en chantier d'insertion ?
Oui, tout à fait. Ça représente plus de 60% de sortie vers l'emploi.
Quelles sont les différentes activités que les 34 structures proposent, soit aux institutionnels, aux entreprises ou aux particuliers ?
Alors, comme on a vu tout à l'heure, effectivement, il y a 4 familles et ces 4 familles se différencient et s'insèrent dans un parcours d'insertion. Donc, il y a les chantiers d'insertion et les entreprises d'insertion qui vont plutôt proposer de la production de biens ou de services, donc à destination des entreprises et des collectivités essentiellement, mais également des particuliers.
Comme par exemple ?
Comme par exemple l'espace vert, bâtiments travaux publics, du tri, recyclage, de la logistique, maraîchage biologique, éco-construction. Il y a pas mal d'activités dans le développement durable. Et par ailleurs, il y a la mise à disposition de personnel via les associations intermédiaires qui sont donc 13 sur le département et qui ont la spécificité de faire toute la même chose mais avec des zones d'intervention différentes. Et il y a également les entreprises de travail temporaire d'insertion qui proposent du travail temporaire classique sur des secteurs d'activité BTP, espace vert, logistique, maintenance, mais avec la spécificité insertion, donc avec ce volet accompagnement socio-professionnel.
D'accord.
Le parcours d'un salarié en chantier d'insertion, c'est une activité en structure et un accompagnement social et de la formation.
Oui, tout à fait. La plus-value d'un passage en structure d'insertion, c'est que en plus d'avoir un contrat de travail, un travail salarié, il y a un accompagnement socio-professionnel qui est donc assuré par un conseiller en insertion professionnelle, donc qui est en place dans chacune des structures d'insertion, et également un encadrement technique qui est là pour vraiment soutenir en interne et en externe, soutenir sur vraiment l'aspect technique du travail.
D'accord. Merci Céline. Merci. Donc on a avec nous Lolé et Pierre Tony pour parler de la vie dans un chantier d'insertion. Comment ça se passe? Alors, les domaines sont très grands, il y a 4 familles, hein, c'est ce que vous avez expliqué. Donc, on va plutôt se concentrer sur la famille chantier d'insertion pour ce qui est, en tout cas, de la suite de l'émission. Donc, Lolé, bonjour. Re, bonjour. Est-ce que vous voulez bien nous raconter votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans un chantier d'insertion?
C'était pas un choix, merci de m'avoir accordé la parole. C'était pas un choix de venir travailler dans un chantier d'insertion. J'étais à l'AFPA pour la découverte des métiers de l'hôtellerie et de la restauration.
D'accord.
Et c'est là que j'ai fait la connaissance de 3 personnes. Je voulais rentrer en formation de réceptionniste en hôtellerie. Du coup, j'ai passé les tests pour la formation. J'ai buté sur les tests logiques. Du coup, ils m'ont demandé de faire une remise à niveau pour les tests logiques. Et
oui.
C'est là où j'ai fait la connaissance des gens qui étaient en insertion à l'entrée des solidarités, à l'entrée du réel à l'époque. Et du coup, ils m'ont parlé de l'entrée des GT vraiment en difficulté. Elles ont débuté financièrement et il arrivait que j'aille même à l'AFPA, je fraudais, je prenais le bus sans les transports sans pour autant avoir de
titre
de transport. Et j'ai fait la connaissance de ces collègues qui étaient à l'AFPA, ils m'ont parlé
de l'entrée.
De expliquer comment est-ce qu'il fallait faire pour aller jusqu'à l'entrée.
Alors justement, comment est-ce que vous avez fait? Vous êtes venu directement à l'entrée?
Non, directement. Un d'eux m'a donné le numéro d'une CIP. Il m'a demandé de l'appeler. Il m'a dit qu'elle est pas passée, elle te pose des problèmes. Pourquoi? Comment est-ce que vous avez fait pour avoir le numéro, son numéro? Dites que je dise que c'est lui qui m'a donné son numéro. J'ai appelé la CIP et m'a dit de m'inscrire à Pôle emploi et que je demande à participer aux ateliers de
recrutement.
De recrutement, d'accord.
C'est ce que j'ai fait.
Et vous avez dû passer par Pôle emploi,
oui,
avant de venir travailler, d'accord.
Oui.
Et vous avez travaillé combien de temps en traite?
Plus de presque 16 mois.
16 mois, oui. C'était il y a combien de temps ça, Lolé?
Octobre 2016.
D'accord.
Et je viens de
sortir.
De sortir de l'entrée des solidarités.
Et bien alors du coup maintenant vous êtes où?
Et je suis en formation à la FPP il y a 3 semaines.
C'est quoi la FPP? Je ne sais pas ce que c'est.
Un
centre de formation. D'accord. Et vous faites quelle formation?
J'apprends les premiers gestes de l'administration.
D'accord.
C'est une entreprise pédagogique qui apprend les premiers gestes
d'accord.
De l'administration.
Et à l'entraide, vous étiez dans quel chantier? Vous faisiez quoi comme travail?
Le recyclage, dans la manutention, j'étais dans la fabrication des cagettes de fromage.
D'accord. Recyclage bois. Et lorsque vous êtes arrivé à l'entraide, hein, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont semblé difficiles ou compliquées?
Oui, je pensais que c'était... parce que quand je suis même allé, mais m'inscrire à l'entretien où on présente l'entrée de l'association et postuler pour un secteur défini. J'étais parti avec l'intention, l'idée de faire l'espace vert. Et après, du coup, j'ai choisi le bâtiment.
Ah, c'est vous qui l'avez choisi?
Ah oui. Mais, je me suis rendu compte qu'en plus, c'était un peu compliqué. Après, je me suis retrouvé au recyclage.
D'accord. Et avant votre stage à l'AFPA, vous faisiez quoi?
Avant ça, j'étais sans papier, déjà sans papier. Ah. Et sans titre de séjour, et c'était très difficile. Et je me souviens encore du jour où j'avais signé mon contrat. Et qu'on m'emmenait à l'atelier pour me présenter à l'encadrant. Et quand à cet entretien, l'encadrant technique m'a demandé, il m'a demandé depuis quand j'étais en France, et je lui ai dit le nombre d'années. Et il m'a regardé, et depuis tout ce temps, vous n'avez pas travaillé. Ce jour-là, j'avais omis de lui dire, avant de travailler, il faut d'abord avoir le titre de séjour. Je n'en avais pas, je ne pouvais pas travailler.
Vous veniez d'où?
Je suis du Congo Brazzaville, en Afrique centrale.
D'accord. Et alors, du coup, en chantier d'insertion, vous avez appris quoi? Ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a aidé?
Beaucoup.
Beaucoup?
Beaucoup.
En quoi ça vous a aidé?
J'ai appris plein de choses. Ça m'a aidé déjà. Le milieu professionnel, je ne le connaissais pas au niveau européen. Mais j'avais déjà eu...
Au Congo, vous travaillez?
Oui.
Oui.
Quelles sont les différences justement? Qu'est-ce que vous avez découvert au niveau du milieu professionnel?
Le stress.
Le stress.
La différence entre le stress et n'est pas. On le vit, on ne le ressent pas de la même façon en Afrique qu'en Europe. J'ai eu cette expérience parce que j'étais avant au Royaume-Uni. Et donc, du coup, quand je suis venu ici, je connaissais un peu comment ça se passe dans le stress. C'était un peu plus.
Qu'est-ce qui vous stresse? Les horaires, la rentabilité, les...
Les horaires. Dans l'association, là,
ouais.
Je pense que dans l'association, ça s'est bien passé parce que la réception, l'accueil des encadrants, des responsables, et j'ai senti pendant toute cette période une chaleur humaine, des gens qui prenaient hormis leur poste, leur attribution, tout ce qu'ils avaient à faire. Ils prenaient le temps de nous écouter et ils nous mettaient tous au même pied. Et ils m'ont encore appris beaucoup de choses. Je me souviens encore de je vais le citer, monsieur Lamont, qui le jour de la signature, on disait que si vous avez quelque chose, quoi que ce soit, n'hésitez pas, il faut revenir vers nous. Nous sommes là pour vous. Et quand on a eu. Je suis passé par des moments difficiles soit avec des orcatons, les autres. J'ai appelé M. Larmand et il a pris le temps de m'écouter. Il m'a donné rendez-vous, on s'est assis. Après, c'est la même chose avec les encadrants, que je tire un chapeau que je pense que je n'oublierai jamais. Et là, toute la chaleur humaine que je. J'ai senti durant toute cette période-là à l'entrée du séminaire.
Tout à l'heure, vous avez parlé de CIP, conseiller en insertion professionnelle. Qu'avez-vous travaillé avec votre CIP?
On a travaillé sur le projet, mon projet de formation. Et je veux aussi saluer tout, je m'en profite pour saluer les CIP. Pour le travail qu'ils font. Tous les CIP, toutes les personnes qui travaillent dans l'insertion professionnelle. Et donc, du coup, elle ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. Elle était là pour moi. Elle me demandait toujours ce que je voulais faire. Et on échangeait beaucoup, hormis le côté professionnel ou le but. Que je sorte, je trouve une propre sortie pour une formation ou bien un travail. Et elle prenait aussi le temps de m'écouter. Et elle faisait attention à moi. Et une fois, il est arrivé, une fois, elle m'a appelé. Je lui ai dit que j'étais à l'hôpital. Et quand je lui ai dit que j'avais passé la nuit dans la rue, elle m'a dit, mais il ne faut pas faire ça. Il faut prendre le temps. Il faut m'appeler au cas où tu as un problème. Et ça, c'est très touchant.
Merci. On va faire une nouvelle pause musicale avec l'histoire de Bernard Vachta.
Merci.
Pierre Tony, vous êtes encadrant technique.
Oui.
Vous participez au recrutement des salariés en insertion.
Oui. Pour cela, enfin, les rendez-vous sont pris par le responsable des CIP ou par les CIP. Et ils sont les gens qui sont envoyés par Pôle emploi, après avoir eu l'information par l'entrée de solidarité à Pôle emploi, sont présentés chez nous pour faire des recrutements.
Donc toutes les personnes que vous recevez en entretien sont adressées par Pôle emploi, en fait.
Oui, à très très rares exceptions. Des gens éventuellement qui seraient passés en CAVA, en AVA, on en parlait tout à l'heure, et qui pourraient aiguiller en direct sur les places de CDDI. Mais très souvent, c'est par Pôle emploi.
Et donc, j'imagine que vous recevez des personnes qui sont très différentes, avec un public très différent, selon le parcours de chacun. Donc des personnes qui viennent de l'étranger ou des personnes qui sont françaises, en tout cas qui n'ont pas travaillé en France depuis longtemps. Du coup, au niveau des compétences, comment est-ce que vous, sur quels critères est-ce que vous faites un choix? Comment est-ce que vous déterminez la motivation des uns et des autres?
Je vous dirais déjà sur les critères humains, sur la motivation de la personne quand elle se présente. Mais généralement, on a aussi, nous, un support sur les postes à fournir. Et du coup, on a quand même des attentes en fonction du travail qu'on va demander aux personnes, mais ce n'est pas le critère primordial.
Les attentes, c'est quoi?
Alors, par exemple, si on a des gens qui sont embauchés comme chauffeurs, il faut qu'ils aient un permis.
Oui.
Voilà. Ça va être une attente qu'on aura. Très souvent, on a aussi des gens qui viennent avec des permis de pays étrangers, donc ils sont valables que quelques temps, donc il faut faire une transition, après les faire transformer en France. Ça ne se fait pas toujours. Et hormis le permis de conduire, il faut aussi une certaine quand même maîtrise de la langue française pour ces postes-là, puisqu'il y a des documents administratifs à remplir, des clients à voir, à faire signer des documents. Donc là, on est un petit peu plus gêné que sur les postes de recyclage même, où là, peu importe si la personne maîtrise ou pas la langue, je veux dire, c'est pas important. On a toujours dans le réseau, à l'intérieur déjà même de l'atelier, des gens qui vont nous aider à nous comprendre entre nous.
Donc les techniques de recrutement ne sont pas les mêmes pour les salariés qui sont en contact direct avec les clients que ceux qui travaillent plus en interne, comme le recyclage?
On a une petite obligation de résultat avec ceux qui travaillent vraiment auprès des clients. Et du coup, on est obligé d'être un petit peu plus sélectif, mais on reçoit quand même beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les capacités au départ, mais pour qui on sent le potentiel de développer ses capacités. On va les emmener jusque-là, c'est notre boulot.
Simplement, peut-être,
oui, Sylvain.
Il faut redire que sur les recrutements, on a en moyenne 3 à 4 personnes pour un poste qui est ouvert. Donc on a effectivement un choix à faire, qui est souvent un choix difficile. Et ensuite, le recrutement se fait sur une forme tripartite, c'est-à-dire qu'il y a la personne, mais il y a aussi d'un côté l'encadrement, qui défend, entre guillemets, la capacité de la personne à occuper un poste, et puis aussi le conseiller en insertion qui lui est plus sur la projection. Et pour reprendre le cas de Lolé est venu sur un poste de travail qui ne correspondait pas à son projet. Mmh. Et son projet a évolué. Il y a aussi des gens qui parfois viennent en espace vert, en bâtiment, parce qu'ils ont ce projet-là. Mais ce n'est pas la majorité. Le support de l'activité est très souvent déconnecté du projet qu'on peut avoir. Et toute la difficulté pour les encadrants en particulier, c'est d'arriver à deviner en un entretien ou deux ce que les gens, enfin, si les gens, en passant par un chantier d'insertion, en tireront un bénéfice. L'idée, c'est pas qu'on... Pour résumer l'état d'esprit, c'est la production est un prétexte, un support, c'est pas une fin en soi. La structure ne cherche pas à dégager de la richesse, elle cherche à dégager un équilibre. Mais ce qu'on essaie de produire, c'est en bout de course l'insertion des personnes. Et quand on sent qu'une personne pourra en tirer profit, on lui offre cette chance-là, mais parfois, il y en a plusieurs. Et quand on a 4 personnes sur un poste, ben malheureusement, les 3 autres ne sont pas retenues. Ou alors, elles passeront une prochaine fois. Voilà.
Ça sous-entend qu'on est sous une forme de recrutement sans être sous une forme de recrutement. Comme disait Pierre Tonnet, on essaye d'identifier un potentiel pour que la personne avance dans son parcours.
Absolument. Il a résumé la formule. On cherche à trouver le potentiel et à savoir si la personne, le candidat, pourra tirer le meilleur profit de son temps de passage sur le chantier.
Philippe, vous êtes directeur d'Orkis à Loches. Pour vous, alors on va continuer à prendre le terme recrutement, comment ça se passe? Alors Loches, on peut dire qu'on est en zone rurale?
Ah ben complètement. Alors effectivement, merci de me recevoir. Donc Orkis, c'est un chantier d'insertion sur Loches et l'Orient de Touraine qui fait exactement les mêmes activités de chantier d'insertion que sur la métropole. Je rejoins complètement ce que dit Sylvain. On va chercher dans le recrutement l'idée, le projet de la personne. Il faut savoir que le chantier d'insertion, dans les 4 structures qui ont été énumérées tout à l'heure, c'est la première marche de l'insertion. C'est par là où les gens entrent dans l'insertion. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont souvent, très très souvent, éloignés, mais très éloignés de l'emploi. Après, la démarche sur le Lochois est la même que sur, la métropole. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver la motivation, de retrouver une motivation. Et dans le recrutement, on va essayer surtout, alors non pas de parler de savoir-faire, parce qu'en fait, à Loche, enfin chez Orkis, comme à l'entrée des solidarités, les gens qui rentrent ne connaissent pas nos métiers, et quand ils sortent, ils les connaissent pas plus, ou pas beaucoup plus. Et c'est pas forcément leur projet. Par contre, notre rôle, c'est vraiment de les emmener vers une sociabilisation, vers un travail collectif. Il faut savoir qu'à chantier d'insertion, une des obligations que nous avons, c'est qu'aucun de nos salariés ne travaille seul. Ils sont constamment encadrés, par l'encadrant, hein, constamment. Ça, c'est le chantier d'insertion et l'entreprise intermédiaire, entreprise d'insertion, pardon, ont la même spécificité, c'est-à-dire que les salariés sont encadrés. Après, les sociétés intermédiaires, ils peuvent être seuls chez un particulier. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'emmener les gens sur leur projet. Donc nous, ce qu'on va vérifier, c'est surtout, alors non pas le savoir-faire, non pas le savoir-être, mais surtout, enfin dans le savoir-être, surtout s'ils sont capables de s'intégrer à une équipe. Parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont se développer.
Pour Pierre Tony, justement, qui est encadrant, comment ça se passe une journée type en équipe et qu'est-ce qui est différent d'une entreprise lambda? Vous avez un rôle un peu plus de coach, de manager.
Oui, mon coach, il est bien. Là. Coach sportif, dans toutes activités. Oui, en fait, c'est d'amener la personne à sortir ce qu'elle a de meilleur en elle, en essayant de trouver avec elle, parce que c'est un boulot à plusieurs, hein, et ça ne se fait pas pour la personne, mais avec. C'est vraiment de trouver le meilleur de ce que la personne peut donner, avec le travail avec les CIP, avec le responsable des CIP, avec les autres encadrants, les équipes. On arrive même des fois à faire des transferts d'un secteur d'activité à un autre, parce qu'on a vu des potentiels de travail que la personne pouvait amener. Non, c'est ça, c'est un boulot de coach. Être là toujours à remotiver les gens. Je crois que le plus gros du travail, c'est juste d'amener de l'humanité.
Et pourtant, vous avez des objectifs de productivité, j'imagine aussi, parce que vous avez des clients et donc vous êtes engagé. Les clients payent, vous faites des devis et vous avez un engagement aussi de productivité et de résultats. Philippe? Par exemple.
et oui, forcément. Nous avons exactement les mêmes exigences, enfin nos clients ont exactement les mêmes exigences qu'une entreprise classique. Nous devons fournir la même qualité de prestation. La petite différence, c'est que les clients peuvent peut-être être plus conciliants sur la partie délai. Parce que, effectivement, comme on travaille avec des gens qui ne sont pas des gens qualifiés, il n'y a que l'encadrant qui connaît le métier, on arrive encore une fois un peu à négocier des délais. Mais il faut savoir que nos clients, on va en parler tout à l'heure, savent qu'ils font, enfin, demandent à faire travailler l'insertion. Donc, en fait, il y a aussi une action de l'entreprise ou de la collectivité hein, vis-à-vis de l'insertion. Ça, c'est important.
On envoie une page de pause musicale, la dernière. Donc là, on écoute Chloé Malorine. Donc c'est une jeune personne qui débute en Touraine. La carte.
Il s'arrête devant un magasin de fleurs. Me dit tu veux un bouquet? Puis se tourne vers moi avec la bouche en cœur. Et au moment de payer,
qu'est-ce qu'il dit?
Ma carte ne passe pas, ma carte ne passe pas, ma carte ne passe pas. Veux-tu payer pour moi? Ma carte ne passe pas, ma carte ne passe pas, ma carte ne passe pas. Veux-tu payer pour moi? Il était perclu de dette ce beau parleur. Mais tout ça je l'ignorais. M'a généreusement laissé tout plein de factures. Qui c'est qui les a payées? C'est Gertrude. Ma carte ne passe pas. Ma carte ne passe pas. Ma carte ne passe pas. Veux-tu payer pour moi? Ma carte ne passe pas. Ma carte ne passe pas. Ma carte ne passe pas. Veux-tu payer pour moi? « je me retrouve avec le bec dans l'eau, la tête dans les remous, c'est pas beau. J'ai pas osé par bêtise, par amour, non j'ai pas osé dire ce petit mot, tout simple, non, 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 non. Ils iront se faire boire ailleurs. Je suis pas un champ à faucher. Sur ma tête, y a pas marqué distributeur. Je ne veux plus jamais entendre ceci. Ma carte ne passe pas. Ma carte ne passe pas. Ma carte ne passe pas. Veux-tu payer pour moi? Ma carte ne passe pas. Ma carte ne passe pas. Ma carte ne passe pas. Veux-tu payer pour moi?
Après ça, donc on reprend. Donc Frédéric est bénévole et il a eu une action spécifique au sein du chantier d'insertion qui se trouve à Chambray, à l'Entraide. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche, Frédéric?
Ben, tu as même qualifié ça précédemment d'une démarche atypique pour toi, mais en fait, vois-tu, bon, moi j'ai pratiqué donc dans le milieu professionnel. J'ai eu des responsabilités dans le domaine des achats et dans le domaine du commercial. Et puis j'ai même aussi donné des cours à la fac dans ces domaines-là. Et donc arrivé à la retraite, il m'a semblé assez naturel de transférer mon savoir à une association comme l'Entraide. Et donc j'ai conduit quelques audits pour voir si les process étaient maîtrisés. J'ai aidé un peu au niveau des achats et du commercial. Et donc, tant que j'aurai quelques compétences encore d'actualité, je le ferai. Et puis, on passera à autre chose.
Alors, merci. En tout cas, je pense que c'est intéressant de parler de ça parce que, en fait, on voit bien qu'on parle du travail. On ne parle pas du bénévolat, là, dans l'émission, mais on parle du travail. Et on voit bien que les associations, quand même, si je ne me trompe pas, sont professionnelles aussi et se professionnalisent. Et que, du coup, c'est une forme de bénévolat qui est importante aussi et à laquelle on ne pense pas tous les jours. Enfin, on ne pense pas forcément tout le temps, quoi.
Oui, mais par contre, tu as bien raison parce que, à l'entraide pour l'insertion, les chantiers d'insertion, eh bien nous sommes à peu près que trois à intervenir. Donc on a un très bon professionnel au niveau charpente, bois, travail du bois, et on a aussi un très bon professionnel au niveau de ce qui serait les techniques du monde industriel. Mais c'est vrai que bien souvent, des personnes qui arrivent à la retraite devraient penser à transmettre leur savoir vers ce type d'associations qui sont comme les autres entreprises astreintes à équilibrer leurs comptes, à proposer des services et des travaux qui sont de même qualité que ceux des entreprises.
Là, je me tourne à nouveau vers Lolay. Pendant que vous étiez à l'entrée dans un chantier d'insertion, vous avez eu des formations?
Non, c'est pas parce que envers les a jamais proposé. La conseillère en insertion m'a proposé de faire la remise à niveau français.
En français.
Puis, j'avais commencé.
Oui.
Et je n'avais pas fini pour les raisons de santé. Et pour moi, ce n'était pas vraiment important, pas parce que je n'en voulais pas, ou bien je me disais que j'avais des petites bases en français, pour ne pas exagérer. Et en maths, et mon souci, c'était de trouver une formation proprement dite que je voulais vraiment faire pour sortir de l'association.
Philippe, la formation, c'est une obligation dans le cadre de votre structure.
Tout à fait. Chez Orchis, 58 personnes sont passées en formation, ça fait 1677 heures. Et nous avons mis un accent particulier en 2017 sur la formation numérique, parce que 650 heures, parce qu'effectivement c'est un besoin. Parce qu'aujourd'hui, un salarié chez nous, c'est aussi un demandeur d'emploi. Et s'il ne sait pas se servir d'un ordinateur pour aller sur son site pour l'emploi, ça devient compliqué. Donc non, c'est vraiment une obligation et c'est une action que toutes les chantiers d'insertion, toutes les structures d'insertion suivent avec attention.
Est-ce que c'est facile de mettre en place la formation par rapport aux salariés en chantier d'insertion ? Je dirais que ma question, elle est un peu orientée.
Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, le besoin est énorme. Donc, on a un choix de formation. Après, les freins, c'est le budget, le financement de ces formations. Et puis le temps, parce que les gens sont chez nous 6 mois, renouvelables 3 fois, et sur des temps de 24 heures. Donc, le temps qu'ils passent sur les chantiers, s'ils sont sur les formations, ils ne sont pas sur les chantiers. Enfin, c'est un peu compliqué, ça.
Oui, on n'en a pas encore parlé, mais sur les chantiers d'insertion, c'est 24 heures semaine. Donc, avec le temps de formation, le temps d'accompagnement et le travail sur le chantier. Donc, c'est
exactement ça.
En fait, on parle là d'une mission d'État. Qui est délégué aux structures associatives qui reçoivent des subventions, parce que des contrats, des formations, etc. Qui est-ce qui paye tout ça ? Céline, par exemple ?
Alors, les financeurs, ce sont le conseil départemental et la directe, qui donc est la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, donc qui représente l'État.
Mmh. Donc, en fait, ce que je comprends là, c'est que les structures d'insertion reçoivent des financements, fournissent des produits sur des secteurs comme espaces verts, bâtiments, tous les secteurs d'activité que vous avez décrits. Mais alors, du coup, j'ai une question peut-être à poser à Sylvain. C'est comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à l'éventuelle concurrence, quoi ?
Alors, pour redire, les finances publiques sont majoritaires dans le budget. Mais il faut aller chercher le complément qui permet d'équilibrer et qui représente généralement entre 30 et 50% pour les chantiers d'insertion. C'est-à-dire que la majorité doit rester à l'argent public. Ça nous donne des obligations en termes de fonctionnement, mais il faut aussi aller chercher des clients. Alors, on est plutôt sur des besoins correspondant à des besoins de collectivités territoriales, ce qu'on appelle des besoins collectifs non couverts ou mal couverts. On peut aller chez des particuliers avec des restrictions. C'est-à-dire que ça doit rester une faible partie de l'activité, et ces clients particuliers sont des clients qui vont devenir adhérents de la structure. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un dans la rue qui dit « j'ai besoin de faire des espaces verts et vous venez les faire chez moi », ça ne marche pas. C'est à partir du moment où on adhère à la structure, aux valeurs de la structure, qu'on comprend ce que c'est que l'insertion par l'activité économique, qu'on peut nous fournir une prestation en contrepartie. Donc il y a quand même des règles qui justement permettent de ne pas empiéter sur le champ de l'entreprise privée, puisque nous, je le rappelle, on produit de l'insertion. Et donc si derrière on va saper le fonctionnement des entreprises privées qui seront éventuellement ceux qui embaucheront les salariés qui sont actuellement en insertion, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes. Donc on peut être sur un champ qui est concurrentiel à la marge, C'est plutôt le domaine de l'entreprise d'insertion, mais ce sera un autre débat, qui elle a le droit de faire de la publicité, etc. et peut se positionner sur des chantiers. Donc majoritairement, les chantiers d'insertion travaillent avec des financements de type collectivité territoriale pour compléter des subventions. Et quand il va chez des particuliers, c'est ou une entreprise privée, c'est à la marge et avec des conditions de type adhésion aux valeurs de la structure.
Ouais. Céline, vous voulez ajouter quelque chose,
oui, je crois. Juste pour compléter les propos de Sylvain, en fait, les financements varient en fonction des familles. Donc, il y a un parcours d'insertion et plus l'accompagnement est important, c'est-à-dire en entrée de parcours plutôt au niveau des chantiers, plus l'aide au poste est important puisque ces financements aident à financer l'encadrement technique et socio-professionnel pour les salariés en insertion.
Sylvain, quand tu dis adhérent, c'est adhérent à l'association ?
Absolument.
D'accord. Donc, on évoquait ce sujet tout à l'heure. Le client, il a connaissance du
caractère spécifique d'un chantier d'insertion et de certaines contraintes. Alors, c'est vrai qu'on se doit d'apporter une qualité. Et je pense que dans la plupart des cas, on répond aux exigences de qualité. Mais par exemple, un chantier d'insertion, il a la particularité suivante. Dans une entreprise normale, quand vous avez un salarié qui doit partir, vous lui demandez d'effectuer un préavis pour pouvoir le remplacer. Sur un chantier, quand quelqu'un trouve un travail le vendredi, il doit commencer le lundi, lundi il commence. Ce qui veut dire qu'on a parfois des incapacités à répondre à certaines commandes parce que notre personnel est plus flottant, si j'ose dire. Et cette qualité-là, elle nous permet de répondre aux opportunités, mais elle nous oblige aussi à dire au client, on ne pourra pas le faire lundi, ce sera peut-être que mercredi. Voilà.
Philippe, par rapport à la mobilité des salariés en chantier d'insertion, on est dans une zone rurale, Loche, comment ça se passe ?
Et oui, le gros problème des gens qui sont dans le milieu rural, c'est qu'on a les mêmes problématiques que dans les métropoles. Il y a les gens qui n'ont pas de formation, qui sont très éloignés de l'emploi. Il y en a aussi des gens qui sont très éloignés géographiquement de l'emploi, ne serait-ce que 20 km. C'est pour ça que nous, à Loche, nous sommes regroupés avec deux autres structures que sont Mobilité Emploi 37, qui est une structure de location de véhicules pour les gens qui ont des difficultés à aller à l'emploi, et WeMove, qui est une plateforme qui, elle, analyse tous les besoins des gens qui ont besoin de se déplacer pour leur activité professionnelle, que ce soit du handicap ou de l'insertion. Donc voilà, donc on s'est regroupés pour mettre en place une plateforme de mobilité sur le sud Touraine, qui est opérationnelle depuis le 1er mars avec des scooters, des vélos électriques et puis dans quelques temps donc des voitures. Voilà. Et c'est un projet, nous sommes en phase test et qui devrait se développer sur le nord Touraine dans pas très longtemps.
L'émission ne va pas tarder à s'arrêter. On peut peut-être finir avec une question à Frédéric, qui est notre bénévole justement. Est-ce que vous pensez que 100% des gens peuvent être réinsérés professionnellement selon ce que vous en avez vu ?
Il y a des expériences qui ont cours en ce moment en France et à l'étranger qui montrent que dans des zones de taille relativement réduite, 10 000 habitants par exemple, lorsque les pouvoirs publics, donc les politiques, les entreprises et tous les bénévoles qui peuvent passer par là, se mettent ensemble et réfléchissent et trouvent des solutions, il y en a. Et il n'est pas du tout utopique d'avoir comme objectif une insertion à 100%. Mais, bien entendu, c'est la demande à tous de penser à modifier éventuellement les exigences que l'entreprise aura vis-à-vis de la personne en insertion et qui remplira bien sûr la fonction, mais qui aura peut-être une capacité à travailler que quelques heures par semaine ou qui ne pourra pas tout faire, mais faire bien ce qu'elle sait faire. Et donc, mobilisons-nous tous et on y arrivera.
En fait, c'est bien ce que j'ai compris. Hein, les chantiers d'insertion, c'est un moyen, c'est pas une fin, ce que disait Sylvain tout à l'heure. Et puis, l'objectif, c'est bien d'ouvrir les possibilités vers les entreprises à l'extérieur. Le pari, c'est le travail d'abord ?
C'est l'entrée et le travail. Travailler d'abord comme support ou comme, comme préalable à l'insertion, comme d'autres passent par le logement d'abord ou la santé d'abord. Voilà.
Écoutez, il reste quelques secondes, je pense. Donc, merci à tous pour vos échanges. Merci aux auditeurs de Radio Béton pour votre écoute. Merci à tous, en tout cas. C'était l'émission d'entraide et solidarité. On se retrouve le premier lundi du mois prochain, soit le 4 juin, à 16h. Et notre sujet sera « Vivre dans la rue ».